Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent. C'est mieux comme ça, on a un petit peu d'affolement, c'est le début de l'émission, c'est comme ça. D'habitude. Le temps d'appuyer sur tous les boutons et tout fonctionne. Alors Laurent,
bonsoir,
comment allez-vous?
Comment allez-vous? Chers auditeurs, ça va très bien avec ce temps printanier.
Bah oui. Vous êtes venu à pied? À vélo peut-être?
À vélo.
Ah oui. Vous aimez rouler à bicyclette? Je vous la chante pas parce que.
En esquivant tous les obstacles.
Effectivement.
La cohabitation est difficile parfois.
Alors vous allez nous proposer quelques films à voir à la télé ce soir. Combien?
Oui, là on risque pas de tomber de vélo.
Non.
On se met dans son canapé tranquillement devant un beau film et je sélectionne 5 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Et on peut aussi éteindre tous nos écrans, c'est pas interdit, c'est même fortement recommandé. À ce moment-là, il y a un conseil de lecture pour frissonner ce soir.
Ah, ça on aime quand vous nous faites frissonner, Laurent. Avec nous également, il est là, l'as de la mécanique cinématographique, Guillaume Sidom, bonsoir.
Eh bien, bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes.
Comment allez-vous, Guillaume?
Mais très bien, avec ce beau temps, en effet... En temps printanier.
Qu'est-ce que vous avez mis sur le pont élévateur ce soir dans votre atelier?
Ah, un film plus grand que le cinéma ce soir. Peut-être le plus beau film du monde. Voilà, qui sera d'ailleurs à l'affiche de la belle programmation de la Cinémathèque de Toulouse tout ce week-end.
Ah, ça... On va en parler justement de la Cinémathèque. Mais je finis de regarder le contenu du panier de l'ouvreuse avec vous. Ce soir, pas de tribunal, de tribunal des séries. Notre homme de loi a quelques petits soucis et donc il a envoyé un mot d'excuse. Comme il s'est excusé, nous acceptons que ce soir il ne participe pas à l'émission. Et puis dans le panier de l'ouvreuse, il y aura aussi plein de belles choses, comme l'affiche de la semaine scrutée par l'ouvreuse et par vous, Laurent Martin. Et puis il y aura quelques reprises à voir sur le grand écran, mais aussi et surtout sur le petit avec vous, Laurent. Et puis, il y aura également des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des expositions, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, la belle surprise, elle est là, ce soir, sous nos yeux, à nous, mais vous allez bien l'entendre. Approchez-vous du poste, il y a Franck Loiré, le directeur délégué de la Cinémathèque de Toulouse. Bonsoir Franck.
Bonsoir à toutes et à tous.
Ça fait plaisir de vous voir, Franck. En plus, en ce moment, vous êtes, sur le grill, un petit peu.
Oui, il y a un peu de stress quand même, là.
Un petit peu de stress, parce que les auditeurs ne sont pas sans savoir qu'après 18 mois, c'est ça, de travaux,
voilà,
à peu près
18 mois de fermeture, tout à fait, oui.
La Cinémathèque réouvre, et de la plus belle des manières, à partir de vendredi, prochain, voilà, après-demain.
Un week-end de réouverture pour faire la fête. D'abord la fête des retrouvailles. Hein. C'est important de se retrouver dans ce très beau lieu, dans ces très beaux lieux en centre-ville. Et puis aussi d'accueillir toutes celles et tous ceux qui vont profiter de ce moment et qui vont découvrir le lieu même. Hein. Non seulement les travaux qui ont été faits, on va en parler, mais aussi ce programme qu'on a voulu. Un programme très, très festif, très varié aussi. Quelque part, une sorte de condensé de ce qu'on peut faire à la Cinémathèque sur une saison, quelque part. Voilà, c'est... C'est un peu l'idée.
Alors, on a toute l'émission pour rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a une chose particulièrement importante dans cette nouvelle cinémathèque, avec des guillemets, c'est qu'il y a une salle de plus.
Et oui, c'était quand même là aussi c'était un grand défi. Tout ça a pris beaucoup de temps, hein, mais on y est arrivé. Et là, on est quand même assez fiers de ce qu'on a pu réaliser rue du Thor, dans un lieu encore une fois très contraint, hein, parce que c'est un vieux bâtiment en centre-ville. C'était impossible d'agrandir à l'avant, à l'arrière, etc. Donc il avait fallu trouver des solutions avec l'enveloppe qu'on avait. Et alors ça, je vais peut-être revenir un peu sur le détail, mais c'est vrai que l'idée c'était d'augmenter la capacité d'accueil de ce lieu. On avait, je le rappelle, deux salles, une grande salle de 200 places, la salle Raymond Bord, qui est formidable, dans laquelle on peut tout faire. On peut montrer du 35 mm, du 16 mm, du numérique. Et la salle est plutôt très confortable avec un écran exceptionnel qui a été fait, d'ailleurs, pensé au départ pour le muet. C'est un écran carré. Je rappelle que le format du muet, c'est 1,33. Tout le monde sait ça. Hein.
Ben
et,
oui.
Voilà. Et donc, c'est un écran vraiment qui est unique, hein, unique en France. Et on a une petite salle de 39 places, qui est aussi un espace très. Voilà, qui est formidable pour certains films, certaines ambiances. Mais il nous manquait un peu l'entre-deux. Voilà, c'est ce qu'on voulait absolument avoir. Et on a travaillé sur ce projet, encore une fois, pendant plusieurs années. Et on a réussi donc à trouver une solution pour installer cette nouvelle salle à l'étage, dans la partie chapelle, puisque voilà, si on revient sur l'histoire de ce bâtiment, il a eu 1000 vies ce bâtiment, hein, mais c'était,
ben oui.
C'était la chapelle du collège de l'Esquille.
Au départ, oui.
Au départ, voilà, qui a ensuite été un séminaire, qui a été un marché à la Violette, qui a été un lieu de culture, évidemment, un lieu associatif, qui a été une salle de spectacle, qui a été une salle de cinéma, le Ciné Espoir. Hein.
Oui.
Et puis en 97, la Cinémathèque est arrivée dans ce bâtiment, voilà, donc il y a eu des gros travaux de fait à l'époque, hein, pour équiper le lieu avec les deux salles de cinéma, la bibliothèque, etc. Et dans cette nouvelle étape qu'on ouvre donc là le week-end prochain, on a donc remplacé cette bibliothèque à l'étage par cette nouvelle salle, et la bibliothèque est descendue au rez-de-chaussée. Donc ça c'est formidable aussi, ça permettra aussi je pense à beaucoup plus de monde de visiter la bibliothèque et de découvrir ce fonds exceptionnel qu'on a, hein. C'est 17 000 ouvrages sur le cinéma, des bases de données, etc. C'est le plus grand fonds sur le cinéma après Paris, et donc on a cette nouvelle salle qui va répondre à ces besoins aussi, parce que l'augmentation de la fréquentation qui est constante depuis 10 à 15 ans fait que voilà, c'était important d'avoir une salle supplémentaire de cette taille, ce qui va nous donner beaucoup plus de souplesse dans le fonctionnement, dans l'organisation de la programmation, et ce qui fait qu'on va pouvoir augmenter aussi le nombre de séances par semaine, tout simplement. Voilà. Donc voilà une nouvelle étape dans la vie de la Cinémathèque et certainement voilà, beaucoup plus de public rue du Thor.
Et le public sera nombreux parce que il y aura ce week-end un magnifique programme, à commencer par une soirée de retrouvailles, vous l'avez dit, on va rentrer dans les détails, oui. Et puis 36 heures de films non-stop, ça c'est proprement extraordinaire.
Oui, on s'est dit, voilà, portes ouvertes, bah, ça veut dire que bah, voilà, tout le monde peut venir. Donc, c'est temps dans notre libre. Voilà, les séances sont gratuites, ce qui est exceptionnel à la Cinémathèque, parce que bah, moi, je pense que, je ne suis pas le seul, hein, mais évidemment, je pense que bah, la culture a un prix, évidemment, donc on ne peut pas faire tout ça gratuitement. Mais là, pour l'occasion, c'est exceptionnel. On se dit, voilà, on va permettre aussi à des personnes qui ne connaissent pas la Cinémathèque de venir. Il n'y a pas d'excuse. Oui. On vient à la Cinémathèque, on peut découvrir tout simplement le lieu, mais on peut aussi venir sur une séance, se faire plaisir, découvrir, et puis peut-être en tenter d'autres. Voilà. Donc, ça sera aussi une manière d'accueillir le plus de monde possible sur un week-end. Donc, c'est un format voilà, marathon, voilà, du samedi matin au dimanche. Projection non-stop, vous l'avez dit, ça veut dire qu'on aura des séances du samedi matin, 10h, jusqu'au dimanche soir, 23h, jour et nuit, puisqu'on a une grande nuit non-stop. Voilà, on est un peu fou à la Cinémathèque.
Ouais.
Voilà, si on le fait pas, qui d'autre peut le faire?
Mais non, il y a que vous qui pouvez faire
voilà,
ça.
Voilà, et donc on va se faire plaisir jusqu'au bout. Mais on avait envie de faire ça sur ce format-là. Et puis on enchaînera tout de suite après, la semaine qui suit, hein, dès le mardi suivant, on enchaînera avec la programmation avril-juin, avec plein de beaux rendez-vous aussi. On pourra peut-être en dire un mot.
Mais bien sûr.
Mais c'est juste un format week-end qui est un peu exceptionnel, juste pour marquer le coup. Et puis j'espère que le public nous suivra. En tout cas, je peux vous dire que la billetterie a ouvert cet après-midi pour ce week-end. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça à la Cinémathèque. Hein. On n'avait jamais vu ça à la Cinémathèque. La cour était pleine de monde dès 13h jusqu'à ce soir pour prendre des places. Donc ça veut dire qu'il y a une attente. En tout cas, il y a une envie de retrouver la Cinémathèque. Il y a aussi, je pense, tout ce public qu'on a rencontré pendant ces séances hors les murs, ça a été une
justement ma question. Oui.
Justement, moi j'allais poser la question. Pendant les 18 mois de travaux, vous avez touché un public plus large, plus jeune, notamment au Patty Wilson et aux abattoirs. Comment justement conserver ce public et le fidéliser dans ce nouvel espace?
Ben, je suis ravi que vous en parliez, parce que vraiment pour nous ça a été vraiment des moments formidables de rencontre aussi avec ce public-là, qui était enthousiaste avec la programmation qu'on a proposée. C'est ces galaxies qu'on a proposées pendant tous ces mois de fermeture. Alors on les a rencontrés, d'ailleurs on a rencontré beaucoup d'abonnés, parce qu'on a fait des soirées, on a fait une soirée notamment au Pâté pour justement essayer de comprendre ce qui les avait amenés à suivre cette programmation et à quelles conditions ils pourraient aussi venir à la Cinémathèque un peu plus souvent, parce que beaucoup en fin de compte ne connaissaient pas la Cinémathèque. Voilà, donc c'est aussi sur les questions de tarifs, sur les questions d'abonnement qu'on va jouer. On va peut-être aussi, on y pense, retrouver un rendez-vous au Pâté, un rendez-vous peut-être hebdomadaire, voilà, pour garder aussi ce lien avec ce public. Finalement, ça ira dans les deux sens, hein. L'idée, c'est de créer des passerelles.
Hein, concrètement, ça veut dire quelqu'un qui a un abonnement Pâté au Wilson?
Alors, c'est ça reverser sera pas si simple que ça, parce que malheureusement, nous ne sommes pas dans le même circuit. Hein. Il y a le circuit commercial d'un côté et le circuit non commercial de l'autre. Et cette formule d'abonnement, voilà, avec cette formule d'abonnement, on peut pas faire ça aussi facilement. Ça, c'était bien sûr notre idée au départ. Mais c'est vrai que là, on a beaucoup joué sur les tarifs, sur des tarifs hyper hyper intéressant, et notamment pour les publics de moins de 18 ans et les étudiants. Et puis, je pense que l'idée, c'est de faire en sorte que, sur présentation du passe-pâté, il y ait un tarif vraiment spécial à la Cinémathèque. Donc, ça, il faut qu'on arrive à mettre ça en place. C'est pour ça qu'on le lancera plutôt à la rentrée, en septembre, pour sur la saison 26-27. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un moment très fort de rencontre, de partage. Je pense que le public qu'on a vu aussi cet après-midi, qui est venu en nombre, il y en avait beaucoup, beaucoup de ce public-là, beaucoup de public jeune. Donc ça, c'est vraiment une grande chance, parce que il faut bien sûr que sur ce moment de relance et de réouverture, on accroche ce public-là et qu'on l'emporte avec nous, évidemment. On fait pas tout ce travail, c'est quoi en fin de compte ce travail de Cinémathèque ? C'est un travail de transmission avant tout. On transmet cet héritage, on transmet cet amour du cinéma, on transmet cette histoire qui s'est écrite à Toulouse depuis 60 ans, hein, puisque c'est depuis 64. Donc c'est ça qu'on transmet. Et si on le transmet toujours aux mêmes personnes, bon, au bout d'un moment, ça se réduit, ça s'éteint.
Vous dites bien dans l'édito d'ailleurs que la Cinémathèque est la maison de tous les cinémas, donc de tous les publics.
Tout à fait. Et je voudrais aussi que ce week-end d'ouverture marque fasse passer ce message de dire la Cinémathèque, elle est pour tous, pour toutes et tous. Il n'y a pas d'un côté une élite, des connaisseurs, des cinéphiles avertis
comme
et
des
de
barrières,
l'autre.
Quoi,
voilà, des barrières. C'est ce qu'on a d'ailleurs montré aussi au pâté, avec cet espace que la Cinémathèque a occupé au pâté, finalement, parce que beaucoup au départ n'y croyaient pas, en disant mais qu'est-ce que vous allez faire au pâté, enfin, vous allez vous perdre, vous allez vous noyer, vous allez disparaître, ça ne va pas marcher votre truc. Et finalement, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Donc je pense qu'il y a, il y a moyen que tous ces cinémas se rencontrent. Ce public, finalement, c'est toujours le même. Enfin, je veux dire, il passe d'un lieu à un autre. Hein. Il nous surprend toujours, d'ailleurs. Hein. Il peut aussi tout à fait consommer, entre guillemets, du cinéma sur des plateformes ou sur des... Voilà. Et en même temps, aller à l'ABC, au Cosmo ou à la Cinémathèque. Donc moi, voilà, toutes ces barrières, en fin de compte, je pense que c'est dans la tête. Hein. Et surtout, voilà, peut-être... que ce moment, finalement, nous permette de passer ce message que, voilà, non, la Cinémathèque, elle est pour tous. Venez voir. C'est gratuit sur ce week-end. Testez, vous verrez. Mais franchement, on l'a mis aussi en musique dans cette programmation. Il y en a vraiment pour tous, pour tous les goûts. Tout le monde peut s'y retrouver. Je pense, avec forcément du cinéma très différent d'une salle à une autre. On passe d'une ambiance à une autre. Mais c'est vraiment ce qu'on a voulu écrire sur ce week-end. Comme on le disait tout à l'heure, bon, on passe de Flashdance à La Jetée de Chris Marker, en passant par Blanche-Neige et les Sept Nains et Les Affranchis. Et puis de l'autre côté, on aura La Noire 2 et puis Once Upon a Time in America. Enfin voilà, c'est ça qu'on a voulu faire. C'est pour dire, voilà, il y a... on peut se faire plaisir avec beaucoup de choses. On peut revoir Cléopâtre pendant 4 heures à la Cinémathèque, voilà, avec un entracte de 15 minutes, hein, comme au bon vieux temps. Et c'est juste un spectacle magnifique. Voilà. Donc voilà, on a voulu rendre ça comme ça. Mais c'est vrai que la question des publics, elle est vraiment centrale, évidemment. Et il faut vraiment que cette réouverture permette aussi à ce public-là d'être présent, d'être plus que présent. On l'a vu d'ailleurs après le Covid, hein, parce que à la Cinémathèque, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres salles à Toulouse et en France en général, hein, qui ont mis beaucoup de temps à retrouver leur public, à la Cinémathèque, ça a été très fort, très vite. On a retrouvé énormément de monde immédiatement, notamment tout ce public jeune qui est venu en masse. Hein. Et je pense parce qu'il y avait une envie d'autre chose. Enfin, ils avaient été abreuvés pendant des mois sur le cinéma et des plateformes, etc. Et donc là, il y avait une envie d'autre chose. Et j'espère qu'on retrouvera aussi ce public.
Une envie de partage.
Une envie de partage. Et puis surtout, une envie de grand écran. Et de partage. Et c'est la carte qu'on a voulu aussi jouer dans ces travaux, avec ces réaménagements et cette rénovation. C'est vraiment de permettre aussi au public de vivre le lieu différemment. Tout simplement, même en dehors des projections, finalement, que le lieu permette aussi, enfin, soit tout simplement un lieu de vie. Voilà,
oui, c'est un lieu d'exposition.
Un lieu de vie, un lieu d'exposition, un lieu où les gens peuvent se poser. C'est l'idée du café où on peut se poser, discuter, échanger, profiter du lieu et puis repartir et puis revenir, etc. Donc, vraiment faire en sorte que la Cinémathèque soit vraiment. Voilà, on a la chance d'occuper une place centrale dans la ville. Donc, il faut aussi que ça soit un lieu où, vraiment, un lieu d'échange, de convivialité. On a voulu améliorer la qualité de l'accueil aussi. Hein, donc, tous ces espaces réaménagés. Cette nouvelle salle, c'est aussi là pour ça. Hein, c'est pour accueillir plus de monde, mais bien accueillir le public et proposer des moments de cinéma qui soient des moments de cinéma exceptionnels. Alors, on a ce nouveau projecteur en salle Raymond Borde. On attend d'avoir d'ailleurs la première projection. C'est un projecteur laser 4K. Donc ça, c'est la nouveauté en salle Raymond Borde. Donc ça, c'est formidable de pouvoir proposer cette qualité de projection publique. Et dans la nouvelle salle dont on parlait tout à l'heure, au premier étage, cette salle de 100 places, on aura des projections aussi en numérique. Donc voilà.
Eh bien, Franck, vous êtes passionné, nous le sommes avec vous. On va continuer de parler de la Cinémathèque tout au long de cette émission, puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h. Mais je voulais d'abord faire une petite parenthèse pour commencer l'émission, parler d'un ami qui nous a laissé. J'en ai déjà parlé ce matin au cours de la chronique que je tiens le mercredi matin, mercredi cinéma. C'est Pierre Bruel qui a eu le mauvais goût de nous laisser tomber. Il nous a laissé tomber, il est parti vendredi dernier, vendredi 3 avril. C'est un homme de théâtre. C'est un homme de radio d'abord et un homme de théâtre après, et puis on a fait des choses ensemble. Pierre Bruel, c'était Les Feux de la Rampe avec Éric Dupri qui est là et avec lequel on avait fait de belles rencontres. Et puis c'était aussi l'Instant Affable, un moment au cours duquel j'avais travaillé avec lui. C'est moi qui lisais les textes qu'il écrivait. Et par rapport à Éric Dupri et la Cinémathèque, justement, on en revient là, parce que une fois, grâce à vous, Franck, avec Pierre et Éric, nous avons rencontré Pierre et Tex, qui était venu à la Cinémathèque, et ça fait, à peu près, à 3 jours près, 15 ans pile. Alors juste, c'est lui qui a commencé l'entretien, et vous allez comprendre que Pierre, c'était un homme, il avait des tas de choses, des tas de documents et des tas de bandes magnétiques, de cassettes en tout genre. Et déjà à l'époque, on utilisait le numérique, mais pas lui. Et vous allez comprendre, c'est lui qui pose la première question à Pierre et Tex. Écoutez, la question est parfaite, mais vous allez comprendre que c'est un monsieur d'une autre époque.
Alors, pour moi, en tout cas moi, mardi 5 avril 2011, la Cinémathèque, entretien à bâton rompu avec Pierre et Tex. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pierre et Tex, si je vous pose comme première question, exabrupto, si je vous dis Napoléon, les auditeurs, les auditrices de Radio Présence, tant de l'ouvreuse, tant du feu d'arôme, vont dire ce Pierre Bruel, il pète les plombs. Pourquoi il pose une question sur Napoléon ? Mais j'ai envie de vous poser cette question quand même. Si je vous dis Napoléon, le petit Napoléon, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Pierre Etex ?
Absolument, absolument. C'est parti sur une idée de Jean-Claude Carrière qui m'a apporté un jour une série de quelques dessins concernant l'empereur, qui était assez cocasse, je dois dire, et l'idée est venue d'en faire un livre. Il me dit que j'apporterai des idées, tu pourras les contester, tu pourras faire d'autres choses. Bref, on a fait un travail commun.
L'entretien a duré une vingtaine de minutes, nous étions trois, je l'ai dit, Pierre, Éric et moi, et il a fallu que Clarisse tape à la porte pour nous dire qu'il fallait arrêter, sinon on serait resté encore longtemps avec lui, et il avait d'autres impératifs auxquels il devait soumettre. Il était votre invité, il avait encore d'autres médias à voir et puis à présenter des films, donc il avait encore plein de choses à faire, ce monsieur extraordinaire, et l'associer avec Pierre Bruel pour ce soir, pour lui faire encore un clin d'œil, c'était l'homme idéal pour parler de Pierre et de Pierre qui se sont rencontrés, Etex et Bruel. Et puis, sans transition aucune, je vous propose tout de suite d'aller au cinéma. On est à la Cinémathèque. Là, on y est. Regardez bien l'écran. Vous y êtes. Et pas besoin de regarder le bas. C'est en VF.
Il était une fois un amour d'enfance.
Si ça t'amuse, tu peux venir m'espionner. Si tu as du temps.
Tous les soirs. Il était une fois une amitié de gosse.
Nous jurons de verser au fond commun 50% de tout ce qu'on empochera. Jurez ?
Jurez. Jurez.
Jurez.
C'était une fois la mort. Il était une fois la violence. Il était une fois la mémoire.
Avec tous ces « il était une fois », vous allez bien nous raconter quelque chose, Guillaume Sidom.
Eh oui, pour « Il était une fois en Amérique », film de Sergio Leone de 1983, musique signée du maestro Ennio Morricone, que vous entendrez à la fin de ma chronique. 15 ans hein, pour mettre à bien son projet. Faut-il vous rappeler que cet ultime Leone est peut-être le plus beau film du monde? Faut-il vous redire les boucles du temps proustiennes, l'amitié violente entre Nodel et Max, l'amour malade entre lui et Déborah, la comparaison entre l'opium et la cinéphilie, la partition sublime de Morricone que vous allez entendre à la fin de ma chronique, les splendides enchaînements du montage, le New York recréé à Montréal, à Paris, à Venise et donc à New York, le parallélisme entre Noodles qui délire sa vie et Leone qui rêve le cinéma américain dans sa version mélancolique d'ancien enfant. Oui, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont jamais vu, quant à ceux qui ont déjà fait la visite dans la tête de Leone Noodles, ils n'en sont toujours pas revenus. L'ouverture du film est particulièrement sombre. Une belle jeune femme se fait froidement abattre dans une chambre à la suite d'un interrogatoire qui ne satisfait donc pas les crapules venues lui soutirer une information. Vous retrouvez immédiatement leur sale gueule transformée en bourreau d'un homme rondouillard aveuglé par le sang ruisselant de tous les orifices de sa pauvre face. Sergio Leone vous assène d'emblée une violence déjà présente dans ses précédents films, mais pas exposée aussi crûment et explicitement qu'ici. Ses doutes, ses obsessions et ses vices, aussi d'ailleurs inhérents à l'homme, sont insufflés tout au long de cette pellicule. Il concourt à en faire son film sans doute le plus personnel, mais ce prologue qui vous rend instantanément mal à l'aise, voire choqué, ne vous laisse en rien d'entrevoir le tourbillon d'émotions, toutes plus différentes les unes des autres, dans lequel vous serez emporté, car il était une fois en Amérique. Eh bien, c'est avant tout une succession de scènes marquantes, et elles viennent vous saisir dans des registres jamais semblables.
Ouais, sorti en 1984, il était une fois en Amérique et massacré à sa sortie dans une version d'un peu plus de 2 heures.
Dorénavant visible dans sa version intégrale de plus de 4 heures, donc Once Upon a Time in America réunit notamment Robert De Niro, James Woods et Elizabeth McGovern, mais c'est bien le temps qui tient le rôle principal de ce film fascinant. 3 décembre 1933, États-Unis, la prohibition vit ses dernières heures. Noodles et ses amis d'enfance, des truands enrichis grâce à la contrebande d'alcool, doivent effectuer une dernière livraison. Et pour les sauver d'eux-mêmes, eh bien Noodles a donné ses amis, mais l'arrestation va tourner à la boucherie. Et ils sont tous tués et anéantis. Noodles s'installe dans une fumerie d'opium du quartier chinois et laisse les souvenirs remonter à la surface de sa mémoire. Flashback, 40 ans plus tôt, dans le quartier de Lower East Side, ce dernier est peuplé d'émigrants et de crève-la-faim. Ils forment une bande de gamins débrouillards, déjà prêts à affronter tous les dangers pour sortir de la misère. Lui est séduit par l'inaccessible Déborah, de menu larcin en coup de plus grande ampleur. Et bien, la bande de compères s'introduit peu à peu dans le milieu de la criminalité, tout en cultivant une profonde amitié. Il aura fallu un Italien pour faire l'un des plus beaux films sur l'Amérique, sa légende, ses revers. Il était une fois en Amérique. Ce sont les années folles de la prohibition, le whisky qui coule à flot, puisque interdit. Les gangsters et leurs mitraillettes à chargeur circulaire, les pépés en satin rose, l'amitié virile, l'amour divinisé, puis souillé, la grandeur et l'anonymat. Le réalisateur italien, à propos de la musique de son film signé du grand Ennio Morricone, la musique est plus expressive que le dialogue. Mon meilleur dialoguiste est donc Ennio Morricone.
Ancien gamin ayant fantasmé l'Amérique et sa puissance, Sergio Leone pérennise sa mythologie en même temps qu'il la démystifie.
Ah ouais, il vous montre l'autodestruction peut-être, la brutalité d'hommes incapables de faire le bien, le machisme stupide de gangsters que l'opulence de Nabab ne parvient donc pas à annihiler. C'est aussi un voyage de la mémoire sous l'emprise de l'opium. Et bien, Noodles se remémore son enfance d'immigré juif. Très féconde, cette saga s'appuie sur un scénario subtil digne d'une tragédie grecque où la trahison et l'amitié sont nouées de manière irrévocable. Ici, vous trompez par amour, vous précipitez la mort de ceux que vous voulez sauver, de l'aveu du réalisateur lui-même. C'est un testament mélancolique. Il était une fois en Amérique et le dernier film de Sergio Leone, le plus beau sans doute de ses films et aussi le plus démesuré au final. 3h49 ou 4h11, plus beau film du monde. À retrouver donc ce samedi 16h15 à la Cinémathèque de Toulouse, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles à l'occasion de sa réouverture du vendredi 10 au dimanche 12 avril inclus. Retrouvé toute la programmation des projections gratuites et des rencontres sur la cinémathèque-de-toulouse.com. Visible aussi en Blu-ray et DVD en version 4K restaurée chez Warner Bros. Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
La flûte de Kokai, c'est pas le thème principal du film. Il était une fois en Amérique, mais qu'est-ce qu'il est beau ce thème-là, puisqu'il est associé et à une scène terrible où les cinq compères voient l'un d'entre eux, le plus jeune de tous, tuer, se faire tirer dessus de dos. Hey, c'est sa flûte à lui, Kokai flûte. Là, Franck Loiret, c'est la bande-son de la bande-annonce de ce week-end fabuleux que vous nous promettez à la Cinémathèque. On la doit à Laurent Paris. On dit Laurent Paris ou Paris ?
Laurent Paris, oui. Paris. C'est Laurent Paris. Tout à fait. Et c'est formidable parce que c'est, voilà, c'est l'idée d'un mouvement, des nouvelles qui se passent. On se passe le mot d'une personne à une autre, etc. C'est un montage de film, bien sûr.
Oui,
tout ça pour qu'ensuite tout le monde se précipite à la Cinémathèque, court à la Cinémathèque. C'est vraiment formidable. Ouais.
C'est un beau moment. C'est une très belle bande-annonce et une musique qui correspond merveilleusement bien à ce que vous proposez. Et sur cette musique, Laurent, je vous propose de parler des films de la semaine.
À l'affiche cette semaine, Sauvage, le nouveau film de Camille Poncin avec Céline Salette, Lou Lampros et Bertrand Belin. Alors nous sommes au cœur des Cévennes. Anja décide de vivre à l'écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l'équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur. Le film est tiré d'une histoire vraie. Alors, on a découvert Camille Poncin en 2022 avec La Combattante. Un documentaire consacré à Marie-Josée Toubiana, qui est ethnologue, photographe et réalisatrice et qui accueille des réfugiés du Darfour. Et avec Sauvage, donc, Camille Poncin passe à la fiction, mais en s'inspirant donc d'une histoire vraie, je l'ai dit. Tout s'est déroulé dans les Cévennes, région que le cinéaste connaît bien, puisqu'il a passé beaucoup de temps dans son enfance. Et au cœur de cette vallée où se sont installés des néo-ruraux dans les années 70, tout le monde connaissait l'histoire de Nana et de sa fille, une jeune femme que beaucoup ont vu grandir avant qu'elle ne bascule totalement, passant du stade de enfant de la vallée à celui de problème de la vallée, et selon les propos du cinéaste. Camille Poncin a souhaité donc la raconter à l'écran à travers la relation mère-fille très forte qui unit Sam, donc incarnée par Céline Salette, et Anja, incarnée par Lou Lampros. Et celle aussi, bien sûr, des conséquences de son geste hein, sur ses parents face à l'hostilité grandissante du village, aux habitants de plus en plus inquiets devant le côté imprévisible de la jeune sauvageonne hein, qui se met à voler comme ça dans les maisons et à semer la panique. Portée par un duo d'actrices, donc, je l'ai dit, hein, Lou Lampros et Céline Salette. Le film convainc quand il se concentre sur les rapports mère-fille, forcément déchirants dans ce face-à-face constant entre le cœur et la raison. Louis-Marie, vous avez rencontré le réalisateur Camille Poncin.
Oui, il faut faire attention. Camille Poncin, c'est un garçon. Et Camille Poncin, oui, quand nous sommes rencontrés, il parlait justement de ce fait divers, hein, si on peut l'appeler comme ça, cette histoire vraie. Cette histoire vraie plutôt que fait divers, l'histoire de Nana et de sa fille. Et c'est ça qui a été le moteur, l'idée première pour réaliser ce film. Et je vous propose d'écouter justement ce qu'il en dit de cette histoire qui, pour lui, est à la fois un problème intime, mais aussi collectif.
C'est l'histoire d'un problème insoluble, d'un problème intime et collectif, parce que tout le monde a connu cette gamine, et donc ça devenait un problème commun à toute la collectivité, et que ce soit pour aussi le maire du village qui est le représentant des institutions, pour les médecins, pour les gendarmes, pour les chasseurs, pour les amis, pour la famille, tout le monde était touché d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, par cette histoire. Et donc, c'était comme ça une présence qui hantait la vallée et qui hantait les esprits et qui nous amenait à nous poser beaucoup de questions. Certains étaient pour la laisser vivre dans les bois. D'autres disaient, il faut absolument la faire interner. Tous les points de vue étaient audibles et compréhensibles quand on est capable de se mettre à la place des gens qui ont vécu les situations.
Anja est donc cette adolescente insaisissable qui refuse toute contrainte et qui choisit de s'enfoncer dans les bois pour vivre en marge. Pratiquement à l'état sauvage. Alors le film, à partir de ce moment-là, déploie toute sa puissance. C'est moins un récit d'aventure, c'en est pas un, mais c'est plutôt une exploration des limites de la liberté. Sauvage oppose deux formes d'émancipation, celle collective et idéalisée de la communauté et celle radicale et solitaire d'Anja. Et ne tranche jamais. Et ça, c'est ce qui fait toute la force du film, qui privilégie l'errance, et c'est dans cette errance que réside la singularité du film, qui capte la révolte d'une jeunesse en quête d'absolu. Et Camille Poncin arrive à livrer une œuvre à la fois politique et intime, qui interroge nos illusions d'autonomie et notre rapport à la marginalité.
Exactement. Petite revue de presse sur ce film, je sais que vous aimez ça.
Oui.
Première a beaucoup aimé, portée par deux actrices habitées. Ce film troublant interroge, sans juger, à la fois le lien entre une mère et son enfant, et puis l'utopie de vivre libre, et le regard de la société, bien sûr, sur ceux qui lui échappent. Les fiches du cinéma ont bien aimé aussi. Quoique tiré d'une histoire vraie, ce beau film emprunte clairement à la forme du conte. Petit bémol pour les Inrocks, sous la plume de Jean-Baptiste Morin. Le film bute hélas justement sur l'histoire vraie, ce carcan qui l'empêche d'entrer dans une dimension plus métaphysique et plus poétique aussi. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir La Femme 2, le nouveau film de David Roux avec l'excellente Mélanie Thierry et l'excellent Jérémy Régnier qu'on aime beaucoup ici. L'histoire de Marianne, qui est la femme de riche industriel, épouse modèle, mère de famille dévouée. Elle va avoir 40 ans et le confort de la vaste demeure familiale a lentement refermé sur elle son piège impitoyable. Elle est prisonnière d'un inextricable réseau comme ça d'obligations sociale, familiale et conjugale, complice presque de son propre effacement. Et alors, elle va voir ressurgir une ombre de son passé, peut-être une brèche qui va s'ouvrir dans sa vie. Peut-être qu'une autre vie serait-elle possible, mais à quel prix? Mélanie Thierry est une des plus grandes comédiennes françaises d'aujourd'hui, hein, ça c'est vraiment confirmé. Et elle le confirme ici d'ailleurs, en se montrant impériale dans le rôle titre de ce nouveau film de David Roux, qu'on avait beaucoup aimé. L'Ordre des médecins était vraiment très bon. Là, il adapte un roman, Son nom d'avant, d'Hélène Lenoir. Il signe quasiment un huis clos dans cette maison familiale très bourgeoise de la région d'Angers. C'est un vrai cocon donc, que Marianne va essayer de casser pour s'en sortir. Mais sur l'homme qui va surgir son passé, est incarné par Jérémy Régnier. Résolument féministe, sans être donneur de leçons, La Femme 2 ouvre les portes de cette réflexion avec une grande délicatesse, selon Première. Le monde a moins aimé. Le film épongeant son sujet, d'ici un ennui compassé, où l'on guettera en vain l'apparition d'une fièvre. Tout n'a-t-il pas été dit, d'ailleurs, entre François Mauriac et Claude Chabrol. C'est vrai qu'en voyant le film, on pense beaucoup à Chabrol. À l'affiche aussi cette semaine, beaucoup de sorties. On peut voir Le Cri des gardes de Claire Denis avec Isaac de Bancolet et Matt Damon. Un film qu'on peut voir par exemple au Grand Palais à Cahors. On peut voir L'Enfant du désert de Jules Demestre. Cocorico 2 de Julien Hervé, c'est la comédie avec Didier Bourdon et Christian Clavier. Le dernier pour la route de Francisco Sosaï à l'ABC de Toulouse. On peut voir Pour Clara d'Olmour-Omerzou. Romeria de Carla Simone qu'on peut voir au CGR Montauban-le-Paris ou à l'ABC de Toulouse. Un petit film d'horreur, messieurs, mesdames. Wedding Nightmare, deuxième partie. De Tyler Gillett. On peut voir aussi un documentaire, L'œuvre invisible, d'Avril Tambouré, au Régent à Saint-Gaudens et à l'ABC Toulouse. Un autre documentaire d'un grand documentariste, Pierre Carle, c'est L'affaire Abdallah, qu'on peut voir à l'American Cosmographe ou à l'Utopia Bordeaux. Et pour les tout petits, il faut y penser aussi, Jeune Pousse, dès 3 ans. C'est une réalisation collective, un film qu'on peut voir à l'ABC à Toulouse. Et pour finir, On mangera des pommes, comme Chirac à l'époque, puis ce sera Les Contes du Pommier. Film d'animation des 6 ans de Patrick Passe et David Succoup. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beer, I ain't got no man, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got
C'est avec cette interprétation pardon, de Rosemary Stanley de Ain't Got No, I Got Life, le fameux titre de Nina Simone. Eh oui, c'est elle qui l'avait conçu. Alors au départ, il faut dire quand même la vérité, au départ, elle n'a pas écrit les textes ni la musique, mais elle s'est inspirée de deux titres qui étaient dans la comédie musicale de R pour en faire qu'une seule chanson. Donc finalement, c'est sa chanson. Et là, Rosemary Stanley l'interprète, l'histoire de cette femme ben, qui n'a plus rien, juste la vie. Et ben c'est sur ce titre-là que s'achève La Femme 2. Beau choix pour terminer un film.
Got my tongue, got my chin, I got my neck, I got my boobs, got my heart, I got my soul, got my back, I got my sense.
Pouvait bien nous accompagner pour retrouver Fellini dans ses souvenirs à Marcord. Bah évidemment, c'est la Cinémathèque, n'est-ce pas, Franck Loiret? Quelle belle idée que de programmer ce film le plus personnel probablement de Fellini, celui où il y a le moins de délire. Et c'est ce qu'ont dit les gens à l'époque, et les critiques en particulier, parce que là, il parlait de sa vie à lui et de lui quand il était enfant et adolescent. Un beau choix en tout cas.
Et oui, et c'était un des incontournables pour ce week-end. Il y en a quelques autres. On a parlé tout à l'heure de Once Upon a Time in America, mais c'est vrai que c'était, ça faisait partie des films qui se sont imposés et que présentera Agnès Jaoui d'ailleurs. Voilà. Ah. Donc c'est un des choix d'Agnès, puisque on a proposé aux personnalités qui composent le bureau de l'association de la Cinémathèque de voilà d'être présent sur ce week-end et de présenter des films, parce que c'est des personnes qu'on connaît pas forcément et que le grand public ne connaît pas forcément. Donc Agnès bien sûr préside le conseil d'administration de la Cinémathèque et donc sera présente tout le week-end de réouverture, partagera ce moment avec nous. Donc ça c'est, on est vraiment très heureux de ça. Et elle a tout de suite évidemment choisi Amarcord de Fellini. Donc ça c'est formidable.
Hein. Ouais, c'est formidable. La Cinémathèque, donc, on en parlait, vous en avez parlé en début d'émission, mais je résiste pas à le redire. C'est dans l'édito que vous avez proposé concernant la réouverture de la Cinémathèque, et vous dit que les Toulousains ont beaucoup de chance, mais ils ne le savent pas assez. Ben voilà, ouais. Maintenant ils vont le savoir.
Ah, ils vont le savoir, j'espère. Mais c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'on a envie de leur dire, mais allez ailleurs, allez voir ce qui se passe. Allez à Lille, il n'y a pas de cinémathèque. Allez à Nantes, il n'y a pas de cinémathèque. Allez à Bordeaux, il n'y a pas de cinémathèque. Ah oui. Voilà, enfin, il y a beaucoup de grandes villes qui n'ont pas cette chance-là. On a une chance incroyable à Toulouse. On a d'abord, enfin, la Cinémathèque, elle repose sur des collections films et non-films, c'est une des plus grandes collections d'Europe, ça se sait pas encore assez, donc je profite de ce micro pour le redire.
Ben oui.
Mais c'est vraiment les fondations de la maison. La Cinémathèque, elle repose sur ses collections, c'est ça qui fait la force
de
la
conservation,
Cinémathèque. La conservation de ce patrimoine, qui est un patrimoine énorme, qui n'est pas un patrimoine cinématographique français uniquement. On a une collection internationale à Toulouse, on a des films qui viennent du monde entier, de tous les genres, toutes nationalités, toutes époques confondues. On a la plus grande collection d'affiches de cinéma en France, elle est à Toulouse, 100 000 affiches, bien devant Paris. On a une collection de photographies énorme, 1,5 million de photos sur le cinéma.
Celles que vous avez choisies pour l'ouverture sont extraordinaires.
Ah oui,
formidable. Alors là, c'était le choix idéal,
issu du film Ektachrome,
c'est
qui
magnifique.
Permet cette transparence et cette netteté et cette définition absolument incroyable. Venez voir cette exposition. Elle sera en place jusqu'à la fin du mois d'août, donc on a le temps. Mais c'est vrai que c'est formidable. On voulait mettre à l'honneur justement le fond photographique de la Cinémathèque pour cette réouverture, parce qu'il y a vraiment des petits trésors. Et cette collection-là, en particulier ce fond-là de films Ektachrome, c'est agrandi récemment et s'est enrichi de 500 nouveau, plan film. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment formidable à découvrir. Mais c'est vrai qu'on le sait pas assez. Donc moi, je le martèle constamment. Et j'espère que cette réouverture à Cinémathèque va pouvoir aussi permettre de le faire savoir encore plus à Toulouse, mais aussi dans la région, et puis bien, bien au-delà, parce que la Cinémathèque de Toulouse, c'est la deuxième cinémathèque du pays,
oui,
reconnue d'intérêt national. Donc c'est très important de le dire aussi. C'est pas une petite collection de régions, de provinces, pas du tout. C'est une des plus grandes collections d'Europe. Donc on a cette chance-là. On a ce lieu magnifique qu'on vient d'embellir, d'agrandir. Donc tant mieux. Il faut continuer à le faire vivre au mieux. Mais c'est vrai que beaucoup de villes, beaucoup d'endroits en France n'ont pas cette chance-là. Donc ici, à Toulouse, on n'a pas de choix. Il faut se précipiter à la Cinémathèque pour découvrir. Et puis surtout découvrir l'histoire du cinéma qu'on raconte à Toulouse. Parce que je pense que ce n'est pas tout à fait la même qu'on raconte à Paris ou à Lyon, par exemple. On a tous nos spécificités, nos collections, notre travail. Et je pense que l'histoire des collections de la Cinémathèque, elle n'est pas tout à fait la même qu'ailleurs. Et du coup, l'histoire qu'on... quand on la donne à voir, c'est-à-dire à travers la programmation finalement, on expose le cinéma sur un écran à travers ses programmations, c'est vrai qu'on n'écrit pas tout à fait la même chose, je pense. Donc c'est ça qui est formidable aussi. On a un ADN particulier à Toulouse, qui se transmet d'ailleurs, je pense, d'équipe en équipe tout au long des années, et on garde ce côté un petit peu aussi décalé qu'on aime bien, ce côté des les marges, je le rappelle dans l'édito aussi, on a toujours été amoureux des marges du cinéma, et je pense que ça continue à se voir, à se sentir, en tout cas on y veille nous, l'amour du ciné-concert par exemple, qu'on a toujours eu à Toulouse,
et ouvre le festival Synchro,
et quand on a créé ce festival il y a 4 ans, c'est ça que j'ai voulu mettre à l'honneur aussi, c'est finalement on crée pas, on dit toujours, on revient à des choses qui se sont déjà faites, mais c'était aussi une manière de mettre le focus sur ce travail-là autour du film muet, autour de l'accompagnement et tout ce travail que les musiciens ont pu faire dans le passé et continuent à faire aujourd'hui avec nous. Voilà, donc c'est tout ça la Cinémathèque. Donc vous voyez, il y en a encore une fois pour tous les goûts, mais c'est vrai que c'est très important de rappeler effectivement que le trésor en plus, il est même pas sur la commune de Toulouse puisqu'il est à Balma.
Il est à Balma, oui.
Pour la petite histoire.
Et vous avez le responsable, le gardien, Brian de Balma.
Qui garde ce trésor. Mais c'est vrai que c'est important de dire que le centre de conservation à Balma abrite toutes ses collections et sera prochainement agrandi, lui aussi, puisque la deuxième phase de ce projet de développement de la Cinémathèque, c'est l'extension qu'on va réaliser à Balma, puisque fort de notre succès, on est saturé.
Vous êtes à l'étroit.
On est à l'étroit, les collections s'enrichissent constamment, avec de l'argentique qui continue à venir en masse à Toulouse. Ça, c'est très important de le dire, parce qu'on a pensé à un moment donné que l'arrivée du numérique qui a bouleversé toute la filière du cinéma, jusqu'à la conservation, on pensait que très vite, ça allait se tarir, qu'on n'aurait plus de copies. Ça, c'était en 2008. On est en 2026 et on continue en nombre d'accueillir encore de la pellicule. Alors évidemment, je pense que ça ira en diminuant, évidemment, mais il faut absolument, encore une fois, il faut absolument être en capacité d'accueillir ces pellicules, sinon ces films-là vont disparaître.
Vous parliez de l'élargissement du public tout à l'heure, il y a aussi le cinéma en plein air, qui 50 séances l'été, 20 000
spectateurs. Là c'est vrai que sur la dynamique, là, en plus de la réouverture, on a voulu faire le plus grand plein air jamais réalisé à Toulouse. Donc ça sera du 8 juillet au 29 août, plus de 50 séances en plein air. Et je pense que ça va être un gros succès, parce que je pense que les gens ont envie de retrouver la cour de la Cinémathèque l'été. Mais c'est vrai que là, on fait vraiment le maximum, on ne peut pas faire plus. Donc on aura l'occasion certainement d'en reparler à ce micro.
Vous savez si ce public justement revient, enfin sur la question du public.
Alors, je sais pas, en tout cas, c'est une bonne manière, je pense là aussi, de faire découvrir la Cinémathèque. Voilà. Je pense que ça a permis en tous les cas, parce qu'on le fait depuis 20 ans, ça a permis, je pense, quand même de faire tomber certaines barrières en disant mais là aussi venez dans la cour, venez vous réjouir, vous faire plaisir devant une toile qui est juste installée comme ça sur la façade, et puis c'est un moment convivial, un moment festif, et je pense que ça a permis de mieux faire connaître le lieu et peut-être à certains ensuite d'oser pousser la porte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours la même chose, il faut accompagner le public, et je pense que le plein air a joué ce rôle là aussi. C'est une programmation grand public comme on dit, très populaire, et c'est ça qui est chouette aussi à la Cinémathèque, et puis dans ce lieu quand même qui s'y prête vraiment très très bien quand même. Cette cour, elle est vraiment faite pour ça, 500 places dans la cour, et on aura donc le plaisir de retrouver ça dès le 8 juillet prochain.
On va faire deux infidélités, non, trois, quatre, cinq peut-être, à la Cinémathèque, vous allez comprendre tout de suite pourquoi.
Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence.
Vous l'avez reconnu, c'est Prince qui chante Party Man et on l'entend chanter cette chanson dans quel film, monsieur? Bien sûr, vous le savez tous.
Batman.
Dans le Batman de 89, le premier de Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle du Batman et Jack Nicholson dans celui du Joker. Probablement un des plus beaux interprètes du Joker. Bon, c'est lui. C'est lui. C'est lui le plus grand interprète du Joker. Alors, vous pouvez revoir le film dans sa version originale au Pathé ou Wilson demain, jeudi 9 à 19h30, ou bien au Pathé La Beige dans sa version originale également lundi 13 avril à 21h. Sinon, à La Beige, vous irez demain à 19h pour voir La Vie scolaire, le film de Grand Corps Malade, et Mehdi Idir sur l'histoire d'une CPE incarnée par Zita Enro. Et puis il y a au Pathé Wilson un classique signé Claude Berry, un film de 86, Manon des Sources, celui avec Yves Montand, Daniel Auteuil et Emmanuel Béart. Ah, sublime, oui. Manon des Sources. Ouais. C'est un beau film aussi, peut-être un peu froid, c'est ce qu'on a reproché par rapport à la version de Pagnol, mais néanmoins un grand film. Donc à voir demain, jeudi 9 à 19h30 au cinéma Pathé Wilson. Sinon, ça c'est du... Alors c'est pas du cinéma, mais c'est de la télé malgré lui, c'est le fameux Truman Show de Peter Weir.
Télé-réalité avant l'heure.
De la télé-réalité avant l'heure d'un pauvre garçon, Truman, qui ne connaît rien d'autre que ce village où il a perdu ses parents. Enfin, il n'a pas perdu ses parents, mais il ne peut pas franchir le pont, il a peur de l'eau et tout. Enfin, c'est assez extraordinaire, il est resté coincé dans cette bulle et il faut voir Jim Carrey dans le rôle de Truman, et le moment où finalement il sortira, il va ramer sur le lac, il rame sur le lac, et finalement il va pas très loin, boum, il se cogne et il arrive à ouvrir une porte et enfin il est dehors. Le Truman Show, c'est au VO de Muret, ils ont de belles programmations aussi, c'est nos amis qui aiment le cinéma à Muret, dimanche 12 avril, c'est le nom de l'association, dimanche 12 avril 18h20, et enfin un grand classique qui aurait pu être dans la programmation de la Cinémathèque mais ne pouvait pas tout mettre en 36 heures, The African Queen de John Huston, un film de 51 avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn. Il n'y a rien à dire. VO, j'ai pris le V de VO pour vendredi, VO, donc samedi 11 avril à 16h à l'Utopia Tournefeuille. Voilà pour le grand écran, pour le petit, Laurent, c'est vous.
Le cinéma, la télévision, garantie sans ultimatum, ça commence dès jeudi, France 4, à 21h avec Ils sont vivants, Jérémy Elkaïm, avec Marina Foïs, histoire de Béatrice qui vit avec son fils et sa mère, elle rencontre Mokhtar, un enseignant iranien, arrivé clandestinement en Europe, par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays. Un drame vraiment épuré, loin des clichés, qui bat beaucoup l'implication de ses comédiens, notamment Marina Foïs en tête. Vendredi, France 5, 21h, ce sera Le Train, film de 73, de Pierre Granier de Fer, avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant. L'offensive allemande ayant commencé, Julien décide de fuir sa ville des Ardennes avec sa femme et leur fille. Et dans le train, il remarque Anna, une belle femme solitaire et mystérieuse, entrecoupée d'images d'archives, un beau drame romantique et grave, porté par une interprétation remarquable. Samedi, France 4, 21h, là c'est autre chose, c'est Mandibule de Quentin Dupieux avec Adèle Exarchopoulos. Alors qu'il dormait sur une plage, comme Guillaume, Manu est réveillé par Raimundo, qui lui propose une mission un peu spéciale, se rendre en voiture chez un certain Michel, pour récupérer une valise au mystérieux contenu. Surréaliste, décalé, porté par un humour détonnant, un film potache, dont le but est de nous faire rire différemment, et qui fait mouche. Dimanche, Arte, 21h, ce sera Allié de Robert Zemeckis avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Nous sommes à Casablanca en 42 et l'agent Max Watton rencontre la résistante Marianne Beauséjour lors d'une mission en risque sur les débuts d'une relation passionnée. Après Flight is a Walk, Robert Zemeckis poursuit son exploration des genres hollywoodiens. Et puis lundi sur Arte 20h55, on pourra revoir Un flic de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon, Catherine Deneuve, Richard Crenna. Ça, je le dis, je le redis, ça, c'était des acteurs, c'était des stars, des vrais, maintenant on n'en a plus, des comme ça. Le commissaire Coleman est chargé de l'enquête sur un braquage. Avec beaucoup de rigueur, comme d'habitude, Melville réalise un film noir d'une grande sobriété, soutenu par une magnifique distribution. Le conseil de lecture, messieurs, mesdames, vous aimez frissonner, ce sera Retour vers les frissons, 80 secrets sanglants du cinéma d'horreur des années VHS. Rappelez-vous, quand on allait au Vidéoclub, le samedi soir, pour louer des cassettes vidéo, des VHS, des films d'horreur qu'on n'avait pas forcément entendu parler. C'était un peu la surprise. Parfois, il y en avait des bonnes. C'est un livre de Fred Fisichella, voilà, de Brain Dead, en passant par The Fly, Jaws, Evil Dead, Nightmare, Massacre à la tronçonneuse. Voilà, des récits authentiques qui révèlent une époque où le cinéma de genre se fabriquait à la main, avec du latex, avec des bouts de ficelle et une inventivité sans limite. Un très beau livre que vous retrouvez aux éditions FF Éditions pour 11 euros. Voilà, pour le cinéma à la télévision, cette semaine.
Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. C'est plus prudent.
We need a man that is simple perfection. There's nothing that's harder to find. Someone to lead us, protect us and feed us.
Quand Brian De Palma revisite le fantôme de l'opéra, ça donne Phantom of the Paradise. C'est dans ce film musical, en fait, à mi-chemin entre le film musical et la comédie musicale. Là, c'est un groupe qui s'appelle les Undead, qui ont besoin de Somebody Supple Like You, et ils ont besoin de cet homme qui est là. Encore une belle programmation que vous nous proposez là, un beau film que vous nous proposez dans ce week-end. Alors, je résume et vous allez me dire si je n'ai rien oublié pour ce week-end, Franck Loiret. Deux jours de programmation en continu, jour et nuit, 36 films, 2 ciné-concerts, 3 séances jeunes publics, 2 visites guidées et l'entrée est libre tout le week-end.
Bah c'est parfait.
C'est ça ?
Rien à rajouter, voilà, c'est parfait.
Et donc, grâce à ce beau week-end, les Toulousains et puis tous les cinéphiles de l'agglomération toulousaine et plus largement de la région connaîtront le chemin pour aller à la Cinémathèque.
Ben j'espère. On est toujours au 69 rue du Thor, dans ce lieu magique. Donc venez, poussez la porte et venez découvrir cette Cinémathèque rénovée.
En tout cas, vous en avez fait un bien beau lieu.
Ah oui, puis c'est un lieu habité, enfin, c'est un lieu, comme je le disais, c'est un lieu qui a eu 1000 vies et je pense que ça se sent, c'est un lieu qui vibre, c'est un lieu qu'on n'avait pas envie de quitter, et puis c'est un lieu, voilà, c'est un lieu, je pense, de spectacle et de cinéma. Ça a toujours été aussi un lieu d'éducation et de transmission, faut pas l'oublier.
Oui.
Et je pense qu'on est toujours en cette idée, finalement. Donc, c'est un lieu aussi politique, marqué aussi, c'est quand même le QG, c'était le QG des républicains espagnols,
hein,
pendant très longtemps. Donc, c'est un lieu aussi qui est marqué de toutes ces histoires et de toutes ces, de tous ces témoignages aussi, ces traces. Donc, on est content de pouvoir continuer à habiter ce lieu.
Il nous reste quelques petites minutes, le temps pour vous, messieurs, de livrer vos coups de cœur. Bien, on écoute une version particulière de Leila, de Derek et les Dominos. Pourquoi elle est particulière ? Parce que la voix est remplacée par le piano et les guitares, celle de Clapton, elle est derrière. Leila, donc Derek et les Dominos, mais c'est dans quel film ? Les Affranchis ! Allons. Alors messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera Sauvage, La Femme 2 et bien sûr la réouverture de la Cinémathèque. Allez-y.
Sauvage, l'œuvre invisible, le week-end d'ouverture de la Cinémathèque. Retrouvez toute la programmation sur lacinémathèquedetoulouse.com.
Et moi, ce sera Sauvage, comme vous, le film de Camille Poncin, La Femme 2 de David Roux. Je suis un amoureux transi de Mélanie Thierry et chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, quelle formidable actrice. Elle emporte toujours. Elle vous traîne, elle vous amène, c'est incroyable.
Je crois que vous n'êtes pas le seul.
Ouais. Mince. L'œuvre invisible, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce documentaire qui parle d'un monsieur qui s'appelle Alexandre Tranois. Le nom de ce réalisateur ne vous dit strictement rien. Et c'est normal parce que en 30 ans de projet et de tournage avec Jean Rochefort, Anouk Aimée ou Lino Ventura, Tranois n'a jamais réussi à terminer le moindre film.
Je peux rajouter un mot juste sur La Noire 2, j'en avais fait une chronique. Le continent noir a pris enfin place dans l'histoire du cinéma mondial. À retrouver à la Cinémathèque samedi 18h30.
Un autre incontournable, effectivement.
Je vous le disais, l'œuvre invisible, et puis le week-end à la Cinémathèque. Merci beaucoup, Franck Loiret, d'être venu
et
avec
Queen
nous.
Et Queen Kelly, venez redécouvrir la restauration du grand Queen Kelly, Derek von Stroheim.
Ah ben oui.
Pour clôturer le week-end.
Ah ben.
C'est la fin, comme ça.
Comme ça. Eric von Stroheim, c'est le mieux pour finir. Merci, messieurs. Merci, Franck. Passez encore une bonne soirée en restant fidèle à Radio Présence. Sinon, vous nous retrouvez la semaine prochaine dès 19h dans N'oubliez pas l'ouvreuse. À 20h, c'est Nathalie Cardon. Et puis, il vous reste une seule chose. Si vous ne l'avez pas compris, il faut passer le week-end à la Cinémathèque. Allez, salut.
La prochaine fois, on ira au cinéma. Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Vivante Église, Parole d'auteur, la conférence de la semaine, des clés pour vivre,
Présence.
Toutes ces